7 heures. Le journal de 7 heures. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition dont voici les titres. Prix national de l'excellence, les lauréats de la 10e édition invités hier par le président Alassane Ouattara à rester dans la dynamique du travail bien accompli. Couverture maladie universelle, bientôt vous pourrez vous faire enrôler dans les centres de santé de proximité. Des équipes iront même vers les populations des villages éloignés, annonce faite par le ministre de la Santé Pierre Bemba récemment en visite dans le Béquet. L'actualité hors de nos frontières nous conduira au Gabon où le président de la transition a rencontré Albert Ondo Ossa, le leader de l'opposition. Ensuite, Francis Cassi nous retrouvera pour la revue des titres de la presse. Et juste après lui, Sylvain Nguessan sera l'invité de la rédaction, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Il se prononcera sur la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO contre la junte au Niger. Sur le sujet, en fin d'édition, Sylvain Nguessan sera avec Soro Adams. 10e édition du prix national de l'excellence. 83 personnes physiques et morales ont été distinguées hier mardi à Abidjan Plateau. C'était en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Junior Cardin y était, son compte rendu.
En 10 ans d'existence de ce prix, c'est 651 lauréats distingués pour plus de 6 milliards de francs CFA. Cette édition 2023 a vu défiler devant le président de la République 83 récipiendaires. Alassane Ouattara leur a prodigué des conseils.
En vous appuyant sur vos qualités aujourd'hui récompensées, vous devez toujours avoir le souci du travail bien fait, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de notre économie en devenant les champions nationaux de demain, les Ivoiriens nouveaux que nous appelons de tous nos voeux.
Au nombre de ces futurs champions, cette demoiselle.
Je m'appelle Akanda Asimaïli Seba. J'ai reçu le prix du meilleur élève au PPC 2023. Je suis très contente et puis je vais m'améliorer au cours de mes années de lycée.
Meilleur fonctionnaire et agent de l'administration publique, Douyou Larissa, directeur des ressources humaines du ministère de la Construction, dit être désormais obligé de maintenir le cap.
Le travail qu'on nous demandait de faire, c'est celui-là qu'on a fait, qui est reconnu aujourd'hui. Quand on a un prix comme celui-là, on est obligé de redoubler d'efforts, de rester au sommet, là où est désormais notre place.
Le prix du développement communautaire est revenu à l'ONG Les Flamboyants, basée à Doropo, dans le Bunkani. Son directeur exécutif, Krakow Kobina Jacques, relève les activités qui ont conduit à cette reconnaissance.
Nous avons trois domaines d'intervention que sont la santé, l'éducation et la protection. Nous avons travaillé dans les zones transfrontalières, depuis le Bunkani jusqu'à dans le Tchologo. Vu le phénomène que nous vivons dans la bande nord, à travers un peu la menace terroriste, nous avons aidé ces communautés-là à croire en elles, à pouvoir développer des actions concrètes à l'effet d'être résilientes.
Chaque lauréat a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA.
Parlons à présent d'élections couplées municipales et régionales. Après la publication de la quasi-totalité des résultats par le porte-parole de la commission électorale indépendante, le président de l'institution a dressé un bilan le lundi 4 septembre. Pour Koulibaly Kouibier Ibrahim, le scrutin dans l'ensemble s'est bien déroulé, à l'exception d'incidents constatés dans certaines zones du pays.
Sur les 201 communes, il y a une seule dont on ne pourra pas donner les résultats. Il s'agit de la commune de Sanlala dans le Béré. À Kubli, des individus ont fait irruption dans le lieu et ils ont détruit tout le matériel électoral. Heureusement, à la différence de Sanlala, on avait déjà nos fichiers électoraux déjà constitués. Donc, sous peu, nous allons donner les résultats de Kubli. De sorte que, pour l'heure, sur les 201 communes, il n'y a qu'une commune qui n'aura pas son résultat parce qu'on n'est pas à mesure de le faire, c'est la commune de Sanlala. Mais pour Kubli, nous ne le faisons pas pour le moment parce que pour l'heure, ils sont en pleine délibération et sous peu, ils vont nous donner. Au niveau régional, il est bon de préciser aussi que c'est dans le Gaumont que nous n'avons pas encore le résultat de la régionale comme de la commune. Au niveau du taux de participation pour la régionale, nous avons eu 44,61%. Au niveau municipal, nous avons eu 36,18%. Au niveau de la région, le parti politique ou groupement politique RHDP a eu 25 régions au titre des listes vainqueurs. Le PDCI 3, le PPACI et le PDCI ensemble ont pu obtenir une région et les sans étiquette politique, eux, ils ont eu une région. Pour ce qui est des municipales, le RHDP 123 communes, le PDCI RDA 22 communes, le PPACI 2 communes, le PDCI et le PPACI ensemble 10 communes, URD 1 commune et les sans étiquette politique 41 communes.
Comme vous l'avez sûrement entendu à l'instant dans l'intervention de Coulibaly Kouibier Ibrahim, le président de la CEI, il est à noter, au vu des résultats, une nette domination du RHDP, parti au pouvoir, et un recul des partis d'opposition, notamment le PDCI et le PPACI. Quelle lecture faire de ce nouveau paysage électoral qui est en train de se dessiner? La réponse du professeur Jean-Marie Kouakou, il est observateur de la scène sociopolitique ivoirienne.
On peut dire globalement que le parti au pouvoir a conforté sa position dominante, qui était déjà observable en 2020 dans les dernières élections municipales et régionales. Là, c'est peut-être même un peu plus marqué au vu des résultats tels qu'ils nous sont parvenus. Je ne pourrais pas faire de commentaires ultérieurs puisqu'il y a beaucoup de contentieux. On ne sait pas en quoi exactement, à quoi vont aboutir les contentieux, si ça va modifier significativement ces résultats ou pas.
Alors, professeur Jean-Marie Kouakou, certains parlent de débâcle en ce qui concerne les partis de l'opposition, singulièrement les grands partis comme le PDCI, le PPACI. Vous le confirmez?
Au vu de ce qui est donné actuellement de lire, on est quand même surpris de voir effectivement que le PDCI, surtout le PPACI, me semble, sont en net recul électoral et la dimension, la grande taille de leur parti ne se confirme pas au vu de ce qu'on observe actuellement. Le problème majeur étant le problème qu'on observe dans la plupart des élections généralement observées en Côte d'Ivoire et voire aussi en Afrique, c'est faut-il considérer le résultat en lui-même ou faut-il voir tout l'arrière-plan du résultat, à savoir tout ce qui est contesté généralement par les parties perdantes, c'est-à-dire est-ce que le listing électoral, la distribution des cartes a été fait conformément, est-ce que le scrutin a été tenu dans la régularité stricte et entière. Ce sont des questions qui ne permettent pas de faire une analyse définitive et finalement viable.
Professeur Jean-Marie Kouakou, observateur de la scène sociopolitique ivoirienne, joint par Soro Adams. L'inauguration d'un centre de santé dans la sous-préfecture de Sakassou a été un prétexte pour le ministre de la Santé d'aborder la question de la couverture maladie universelle. Retrouvons Pierre Demba dans des propos ici recueillis par Joseph Assalé, notre correspondant dans le Béké.
Je pense que ces derniers temps, il y a un engouement. Nous avons essayé de renforcer le dispositif d'enrôlement pour que dans tous nos centres et même dans des endroits les plus fréquentés, donc il y ait des centres d'enrôlement. Et aujourd'hui, je pense que la fréquence d'enrôlement augmente. Mais également, il faut le dire, hein, l'enrôlement n'est pas payant. Donc, quelquefois, il y a des gens qui s'adonnent à prendre l'argent à nos populations. Il faut être vigilant là-dessus. Et une fois qu'on est enrôlé, maintenant, on paye la cotisation mensuelle qui est de 1 000 francs, soit 12 000 francs dans l'année. Et je pense que c'est des montants accessibles. Ça vous permet d'avoir droit donc à des soins à coût réduit. Par exemple, payer que 30% des soins, par exemple, pour 10 000, vous payez 3 000, là où les autres vont payer 10 000. Et je pense que ça va aider donc nos parents à avoir droit à des soins de santé. On a multiplié les centres d'enrôlement, tous nos centres hospitaliers, régionaux, généraux, mais même les centres de santé de proximité vont avoir des centres d'enrôlement. Plus, nous allons mettre en itinérance des véhicules qui vont aller dans les villages éloignés pour enrôler les gens. C'est vrai qu'il y a eu un pic à un moment donné, mais nous allons donc résorber cela et faire en sorte que l'enrôlement se passe bien.
Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pendant ce temps, l'on apprend qu'une exposition internationale sur le gaz de pétrole liquéfié dénommée LPG Expo 2023 se tiendra à Abidjan du 7 au 8 septembre prochain. Plus de 1000 acteurs du domaine sont attendus pour découvrir et présenter les innovations en la matière. Ce sera la 4e édition du genre en Afrique de l'Ouest, organisée avec le soutien du ministère ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie. Ghislain Coulibaly, qui était au lancement de l'événement le 31 août dernier, nous en parle.
Que comprendre par gaz de pétrole liquéfié? Boutros El Hakem, l'un des partenaires du LPG Expo 2023, nous l'explique.
C'est un moyen pour les ménages et c'est un moyen pour la cuisine, comme pour le réchauffement. Je pense qu'il contribue vraiment à faciliter la vie de nos communautés et à servir mieux la population.
Cet événement aura un double caractère. Il sera marqué par des conférences d'une part, et d'autre part, il y aura des expositions. Tout cela avec un impact sur l'économie et l'environnement. C'est ce que nous dit Catherine O, directrice de LPG Expo.
Le thème de cette édition, c'est aller vers une cuisine beaucoup plus propre. C'est évidemment d'accroître la disponibilité du gaz GPL dans les ménages. Ce que nous voulons, c'est évidemment que les ménages puissent faire une transition des combustibles traditionnels aux combustibles modernes qui est beaucoup plus propre. Ce que la Côte d'Ivoire va obtenir de cet événement, c'est évidemment de meilleurs prix, un plus large éventail de choix et beaucoup plus de finitions.
Les entreprises auront donc l'occasion de s'imprégner des avancées dans le secteur du gaz et de l'énergie. Adam Sio, sous-directeur dans une société de distribution de produits pétroliers.
Il faudrait se mettre également aussi au niveau de la technologie. Donc lorsque la technologie avance, il faudrait essayer d'actualiser tout ce qu'on utilise comme outil, comme instrument pour pouvoir performer notre niveau de production aussi au niveau local.
Ces technologies dans le domaine de l'énergie répondent ainsi aux problèmes liés à l'usage du pétrole, du gaz naturel et du charbon.
Hors de nos frontières au Gabon, alors que la transition a officiellement débuté par la prestation de serment de Brice Oligui Nguema et que la formation d'un nouveau gouvernement est attendue, le chef de la transition poursuit ses consultations. Il a ainsi rencontré l'opposant Albert Ondo Ossa. Ce dernier, jusque-là, demande le respect du verdict de la présidentielle du 30 août dernier. Le conseiller spécial du président de transition, dans un entretien avec RFI, a indiqué que la présidentielle est annulée pour tout le monde. Place maintenant à la revue des titres de la presse avec vous, Francis Cassis. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est par l'édition 2023 ayant eu lieu hier de la reconnaissance de la nation ivoirienne envers certains citoyens depuis une dizaine d'années que nous ouvrons notre revue des titres des journaux de ce mercredi. 10e édition du prix national d'excellence. La nation honore 83 modèles de réussite et d'engagement citoyen. Titre à ce propos, l'avenir. C'est ce que fait la une de Fraternité Matin sur le même sujet, rapportant ceci du président de la République. Prix national d'excellence 2023. Ouattara aux jeunes. Ayez le souci du travail bien fait. Et faisant focus sur certains des lauréats, le sursaut indique « Prix national édition 2023, voici le meilleur policier ivoirien de l'année ». Ainsi que l'expression « Développement du cavalier » Anne Ouloto reçoit le prix d'excellence du meilleur élu local 2023. Et puis, les commentaires vont bon train à la une aussi de vos journaux de ce 6 septembre après la proclamation définitive par la CEI des résultats provisoires des municipales et régionales couplées du 2 septembre. Le RHDP dans toute sa majesté, le parti national, s'exclame tout réjoui le patriote au sujet de la victoire écrasante du parti au pouvoir à ces élections. D'où ce titre à la fois joyeux et moqueur de Le Jour Plus, municipal et régional du 2 septembre. Gbagbo, la grande humiliation. Mais au sujet de cette victoire électorale du camp présidentiel qui fait trépigner de joie ses précédents journaux, d'autres confrères semblent dire qu'elle ne s'est pas faite à la loyale, notamment la voix originale avec cette réplique. Élection régionale et municipale du 2 septembre, victoire du RDR-RHDP selon leur CEI et deuil national. Pareil pour le temps, qui renchérit ? Municipal et régional, la victoire de la fraude, tout sur la mascarade électorale. Mais contrairement à ces deux camps, le tabloïd opposé l'Inter, lui, à cette tonalité. Municipal et régional du 10 septembre, PPACI, autopsie d'une débâcle, le RHDP rêve déjà 2025. Et nous terminons notre revue des titres des journaux de ce jour avec Soir Info qui, apprenant aux candidats malheureux contestataires ce qu'ils doivent faire, titre. Municipal et régional 2023, tout sur la procédure à suivre pour ceux qui contestent les résultats. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassis qu'on retrouvera dans l'édition de 8h. L'invité de la rédaction aujourd'hui est Sylvain Nguessan. Analyste politique, il se prononce sur la crise nigérienne et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO contre la junte. En lieu place de cette option brandie par l'organisation, Sylvain Nguessan suggère la voie de la négociation. Pour le spécialiste des questions de défense et de sécurité, une intervention armée pourrait ébranler la sécurité sous-régionale. Il s'en explique à travers cet entretien conduit par Soro Adams.
Bonjour, monsieur Sylvain Guesson.
Bonjour, monsieur.
Il y a comme une effervescence dans la sous-région ouest-africaine avec le coup d'État intervenu le 26 juillet 2023 au Niger. Que vous inspire cette situation, ce coup d'État?
D'abord, ce coup d'État est difficile à comprendre, à la mesure où tout semblait quand même s'améliorer au Niger, avec différentes réformes sociales, avec le taux de croissance, avec un président sortant qui a refusé de modifier la constitution, qui a fini ses deux mandats, qui s'en est allé, un autre qui a été élu. Bref, tout semblait aller mieux sur le front sécuritaire également, les attaques semblaient en baisse, et ce coup d'État est intervenu. Bon, le coup d'État, en tant que violation de la constitution du droit international, il l'a condamné. Donc, les différentes médiations qui ont lieu présentement sont compréhensibles dans la mesure où ce serait de trop cet autre coup d'État avec d'habilité au pouvoir au Niger.
Et donc, que faut-il faire?
Malheureusement, le coup d'État a été fait par des militaires, par des unités d'élite, et la population semble de plus en plus soutenir ces hommes forts-là, cette nouvelle direction de putschistes au Niger. Je pense qu'il faut multiplier les médiations, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, à mon avis, qu'une médiation pour un éventuel retour au calme, retour dans les casernes des militaires. Je ne vois pas d'autre alternative que la médiation.
Alors, M. Sylvain Guesson, la CEDEAO demande que le président déchu, Mohamed Bazoum, soit réinstallé dans son fauteuil. Est-ce possible aujourd'hui, presque un mois après ce coup d'État?
Ce serait l'idéal, mais les militaires sont déjà arrivés loin. Comme vous le constatez, ils ont commencé vraiment à asseoir leur pouvoir, hein, avec le premier ministre nommé, un gouvernement par la suite, différents directeurs généraux nommés, et officiellement, toute l'armée nigérienne a fait allégeance aux nouveaux dirigeants, et la jeunesse s'y met, la population s'y met. Déjà, il y a eu un appel à ceux qui voudraient défendre le Niger en cas d'attaque. On a vu le monde qui a déferlé au terrain. Donc, ce serait quand même difficile, à mon avis, à l'état actuel, que ces militaires-là laissent le pouvoir pour retourner à Kazen. Je serais quand même surpris qu'on arrive à ce stade-là.
Mais la CEDEAO, oui, pour les tractations, les négociations. Mais si celle-ci échoue, l'organisation sous-régionale menace d'intervenir militairement. C'est du domaine du possible, ça, selon vous?
Je ne crois pas trop en cette option. Comme mesure dissuasive, oui, mais une opération militaire à Niamey, je n'y crois pas trop. D'abord, le président Bazoum, qu'on voudrait installer à la suite de cette opération militaire, je crains qu'à la fin de cette opération, il ne soit plus en vie. À côté de cela, le Niger a été rejoint par deux autres pays qui sont ses alliés présentement, le Burkina et le Mali. Et donc, les trois mis ensemble, ça fait 11 pays avec lesquels ils ont des frontières. Alors, comme dans toute guerre, des armes sont distribuées à ceux qui sont enrôlés, comme les jeunes gens qu'on a vus au stade de Niamey le week-end passé. Alors, des armes qui se retrouveraient dans les 10 pays environnants, dont les pays côtiers, et sans oublier l'autre partie, les terroristes qui seraient de la partie. Pour moi, les incidents seraient négatifs, seraient à déplorer pour nos pays côtiers, surtout la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin. Donc, qu'on puisse privilégier d'autres mesures pour que ces armes-là qui seront distribuées aux jeunes Nigériens ne se retrouvent pas dans nos pays déjà sous la menace des groupes armés terroristes.
Donc, pour vous, les risques sécuritaires pour la sous-région, c'est certain?
C'est certain. Déjà que la menace est là, hein, tous les pays côtiers en dehors du Ghana, pratiquement seront connus une ou deux attaques terroristes. Donc, avec des armes qui vont se retrouver encore en pleine nature, les armes, ça sert seulement à tuer. Ce serait vraiment difficile qu'on puisse faire face à tous ces fronts-là à la fois. Et donc, les incidences, ça concerne tous les pays côtiers de notre espace. Il faut privilégier la recherche de la stabilité. On a vu déjà le cas de Tripoli. On me dira que ce n'est pas le même contexte, mais on pourrait aboutir malheureusement au même résultat.
Et qu'est-ce que vous dites aux responsables de la CEDEAO?
Il faut poursuivre les négociations. C'est vrai que ce putsch-là est rétro, il n'est pas acceptable, mais ce n'est pas une raison aussi pour que des armes se retrouvent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce serait regrettable à mon avis. Donc il faut privilégier la négociation et par-dessus tout privilégier la recherche de la stabilité.
Je vous remercie, M. Sylvain Guesson.
C'est moi qui vous remercie.
Sylvain Nguesson était ce jour l'invité de la rédaction, analyste politique par ailleurs spécialiste des questions de défense et de sécurité. Il était avec Soro Adams. C'est ce qui marque la fin de ce 7 heures, dont voici le rappel des titres. Prix national de l'excellence, les lauréats de la 10e édition, invités hier par le président Alassane Ouattara à rester dans la dynamique du travail bien accompli. Et puis couverture maladie universelle, bientôt vous pourrez vous faire enrôler dans les centres de santé de proximité. Des équipes iront même vers les populations des villages éloignés, annonce faite par le ministre de la Santé, Pierre Bemba, récemment en visite dans le Gbeke. Merci de nous avoir suivis à 8h, une autre édition de l'actualité. En attendant, bonne suite des programmes sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.